Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Voilà, alors depuis le 17 mars 2020, les péripéties du Covid sur la scène du théâtre mondial ont bouleversé beaucoup d'habitudes chez les gens. Sous l'influence de la peur de mourir, hein, nous avons été confinés, privés de sport, d'activités culturelles, de restaurants, de sorties, de voyages. Autant dire que nous nous sommes retrouvés brutalement avec du temps. Du temps que nous ne pouvons plus consacrer à nos tâches ou nos loisirs habituels. Pour la plupart d'entre nous, tout ce temps libre nous a amené à explorer de nouvelles choses. On s'est mis à suivre des cours de yoga, de sophrologie ou encore de méditation en ligne. Des disciplines qui nous ont rapprochés de l'esprit et de notre propre esprit. Alors pour aborder ce thème, j'ai souhaité inviter une personne qui nous a fait avancer dans la spiritualité incarnée, la levée des voiles de l'illusion, l'ouverture de conscience, la pacification des mémoires et l'activation de ses potentiels. Bonjour Gilles Delieuze.
Bonjour Adeline.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Gilles, j'ai appris à vous connaître grâce à une amie, mais surtout grâce aux réseaux sociaux. Vous y êtes très actif et très suivi depuis de nombreuses années sur YouTube, Facebook, Instagram notamment. Et puis sur votre site, on trouve également beaucoup d'informations sur ce que vous proposez aux gens. Mais avant d'en parler, pour que nos auditrices et auditeurs puissent mieux vous connaître, j'aimerais beaucoup que vous présentiez, que vous nous racontiez votre parcours.
Tout d'abord, merci pour cette invitation. Très heureux d'être là également. Mon parcours, on va commencer de but en blanc comme ça, je vais dérouler tout. Je vais essayer d'être synthétique, c'est pas ma qualité première.
Ça me va très bien.
Donc je m'appelle Gilles Delieuze, j'ai 42 ans. Je suis effectivement tombé dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, depuis ma naissance comme une évidence dans un milieu familial qui n'était pas forcément dans cette démarche-là. Mais avec des perceptions et une quête de sens qui m'a fait expérimenter pas mal de données. D'abord pour moi, dans ma sphère personnelle, et puis aussi en me heurtant à mes propres incapacités, à mes blessures, à mon hypersensibilité, à ma difficulté parfois à m'adapter à ce monde. Mais aussi avec une soif de comprendre les secrets de l'univers et de comprendre aussi ce que j'avais l'impression de percevoir et qui pour moi était le propre de chacun et qui finalement... s'avérait être plus singulier au fur et à mesure que je grandissais. Donc j'ai essayé de me comprendre, de me connaître et aussi de trouver un moyen de mettre des interrupteurs en place pour mieux vivre dans ce monde. Et très rapidement, l'énergétique a pris une place assez importante. Et à côté de ma carrière classique, on va dire lambda, donc je suis juriste à la base, donc très incarné, et j'ai bossé dans le social parce que j'avais cette fibre humaine et parce que j'avais... Cette évidence qui faisait aussi certainement écho à mon histoire, de tendre la main et de permettre à chacun une forme d'égalité des chances basée sur l'engagement, sur le méritoire, mais aussi sur la confiance qu'on va poser en l'humain. En parallèle de ça, j'ai commencé à proposer des soins, des ateliers, des formations, et donc ça fait 20 ans maintenant, avec une pratique qui a évolué, qui a été différente et qui a suivi mon propre parcours, mon propre cheminement, mes propres expériences, mes propres évolutions, entre guillemets. Je mets ce terme entre guillemets parce que j'ai tendance plutôt à le voir comme un leurre, l'évolution, mais en tout cas l'évolution du personnage, on va dire. Et c'est vrai que progressivement, je me suis détaché du décodage des mémoires, de certaines perceptions pour rentrer beaucoup plus dans une spiritualité que je dis effectivement incarnée et qui se traduit plus par le fait d'accepter de lâcher certaines croyances, certains mythes, certains modes de fonctionnement, rituels, qui sont peut-être parfois liberticides et qui sont peut-être aussi des formes qui nous éloignent d'une forme de réalité et de réalité ancrée et qui nous éloignent... avec ce bénéfice secondaire, en tout cas, de cette vie, comme une sorte de petit déni. Et j'ai vu, pendant ces 20 ans, beaucoup de personnes qui pouvaient effectivement chercher des échappatoires et avec des sortes de parenthèses où ils allaient chercher des choses magnifiques et puis revenir en apnée dans cette vie et puis rien ne changeait. Cette vie n'était pas plus agréable à vivre ou plus soutenante, on va dire. Et ça m'a beaucoup interrogé sur cette forme de dépendance qu'on pouvait avoir au spirituel, que ce soit le religieux, que ce soit le spirituel laïque, y compris des pratiques méditatives ou même des pratiques de jeûne qui sont positives au demeurant, mais qui, en fonction de comment on les investit, à partir de quelle part de soi, peuvent se révéler toxiques, pas par leur teneur en elle-même, mais par ce qu'on en fait, par ce qu'on y investit et quelle part de nous est à l'œuvre. Et donc mon enseignement, mes partages, ils sont basés sur ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas basés sur une technique particulière, sur une approche particulière. J'ai fait ma propre synthèse avec des outils assez singuliers aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ce qui me tient à cœur, c'est finalement de rendre la liberté à chacun, de pouvoir vivre cette vie et finalement de se dire que s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est vivre. Mais accueillir de vivre sa vie, ça peut paraître bête comme chou, mais parfois on a besoin de toute une vie pour l'admettre et pour s'y déposer. Donc humblement, à ma manière, avec mes outils, avec ce que je suis, avec ce que j'expérimente et que je remets en cause l'instant d'après, c'est avec ça que je m'investis et que je m'offre aussi et que j'offre mes prises de conscience et mes accompagnements aux personnes qui se sentent appelées. Et avec à la fois un petit côté ludique, ancré aussi, parce que je suis un peu un geek sur certaines choses, et donc je vais utiliser les nouvelles technologies, je vais utiliser la réalité virtuelle, les neurosciences, pour faire passer les informations de manière différente, garder l'esprit, mais finalement en dépoussiérant, parce que je crois que souvent on est en train d'entretenir des doctrines ou certaines données qui ne sont plus actuelles et qui ne font plus sens, et je crois que si Bach était encore vivant aujourd'hui, il ferait plus ses fleurs de Bach de la même manière, ou il aurait changé des données, et ça serait pareil pour Hahnemann au niveau de l'homéopathie, etc., etc. Et donc, et pareil dans le chamanisme, et parfois je vois la forme ou le formalisme qui est mis en avant, alors que c'est vidé de sa substance et de son sens profond, et j'essaie, autant que faire se peut, avec les clés qui sont les miennes, de m'ouvrir à cet esprit-là et de le rendre actuel et de permettre à chacun, du coup, avec les codes de cette société aussi et de notre mode de fonctionnement, de s'en saisir.
Très bien. Et justement, alors, je comprends un petit peu pourquoi les gens viennent vous trouver, mais vous estimez qu'ils viennent vous chercher pourquoi ou qu'est-ce qu'ils viennent trouver vraiment auprès de vous? Est-ce qu'il y a plusieurs motivations chez les gens pour vous contacter et bénéficier de vos services?
Je crois qu'il y a effectivement plusieurs portes d'entrée qui sont certainement autant de prétextes qu'on peut avoir pour rentrer en contact. Déjà, je ne crois pas vraiment, même si les personnes peuvent y croire, qu'elles ont besoin. Je crois que c'est l'un des premiers leurres, mais l'un des premiers prétextes aussi qui permet un espace de communion. Moi, je crois que ce que j'offre, c'est un espace de non-jugement, c'est un espace d'amour et c'est un espace de communion. Mais à partir de là, ça ne me pose pas de problème de revêtir un rôle sur la scène de théâtre de l'autre en lui donnant à croire que je l'aide à résoudre un problème. Si c'est le seul moyen pour cette personne à ce moment-là pour accéder à cet espace de communion. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont venir en ayant des problèmes physiques, d'autres des problèmes émotionnels, d'autres le sentiment de blocage dans la vie pour elles ou pour leur famille, d'autres avec des projets professionnels ou des projets de vie, mais aussi et beaucoup plus ces dernières années, des personnes qui se sentent déjà très bien équilibrées dans leur vie, mais qui souhaitent plutôt ne plus se mentir, ne plus se leurrer, ne plus se contourner et être beaucoup plus en phase avec elle-même et aller plus loin encore dans la connaissance d'elle que je mets presque en opposition au savoir. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à s'étiqueter et à mettre, un masque supplémentaire de ce qu'elle serait et qu'elle saurait par A plus B en le catégorisant, mais plutôt à se vivre et à se laisser vivre, à se laisser être et à rentrer dans l'expérience d'elle-même. Et c'est souvent ça. Comme dénominateur commun derrière toutes les autres formes factuelles, c'est ce désir de se connaître et cette aventure à laquelle on s'ouvre en acceptant la part d'inconnu, en acceptant la peur qui peut aller aussi avec cette part d'inconnu, mais en ressentant cet élan de vivre cette expérience et d'être au rendez-vous. Et c'est aussi pour ça que je vais utiliser des outils qui déstabilisent le mental, parce que justement il n'a plus de prise à cet endroit et que ça convoque la présence, ça convoque la conscience et qu'à cet instant-là, le passé n'a plus de prise, le futur n'a plus cours et dans ce présent, on est libre de se reconnaître, de renaître, de se réinventer et tout simplement de se vivre.
Bon, super, c'est passionnant. On va peut-être marquer une petite pause. Alors, je vous ai demandé de choisir un morceau musical pour faire écouter à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez choisi, Gilles ?
Alors, j'ai choisi une chanson d'Anthony and the Johnson qui s'appelle « Fistful of Love », qui est une chanson que j'affectionne particulièrement.
Eh bien, on l'écoute. Merci beaucoup.
Merci.
was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. Into your eyes, and the seas open up to me. But I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fears, and I know it's out of love. And I feel the wind, and I know it's out of love. I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh. And I feel your fears, and I know. Thank you.
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous retrouvons Gilles Delieuze, notre invité pour cette seconde partie d'émission. Gilles, vous exercez en tant qu'accompagnant, thérapeute, j'aimerais ajouter en tant que guide de l'âme, si ça vous va.
Ça me va.
Bon. Gilles, beaucoup de personnes s'accordent à dire que la voie ou l'éveil spirituel commence dans la région du cœur. Bon. Pouvez-vous déjà nous dire à quoi correspond l'éveil et pourquoi l'espace du cœur est si important ?
Alors, je prétends pas avoir la réponse, hein. Mais je vais apporter mon éclairage qui ne vaut que pour cet instant et qui sera peut-être différent l'instant d'après. Moi, en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est effectivement cette recherche de l'éveil comme une quête dans laquelle je suis moi-même rentré hein, pendant une partie de ma vie et qui, je crois, est un leurre absolu et qui est sans fin. Je crois que finalement, on est en éveil. Si on devait trouver l'éveil quelque part, je crois que pour moi, on est en éveil et qu'il serait plutôt question de demeurer en éveil en acceptant à la fois la sinusoïde de la vie, c'est-à-dire les moments où on est avec une acuité de conscience plus large et puis les moments où on redescend dans quelque chose de plus ancré, de plus rationnel, de plus analytique aussi. Et d'observer cette danse comme nos biorhythmes, comme les ondes cérébrales, comme les ondes cardiaques. Et finalement, de pouvoir se synchroniser à chacune et être bien avec chacune. Pour moi, une forme d'éveil, c'est finalement, oui, être bien avec tout ce qui est, être avec tout ce qui est, et donc, du coup, ne rien éradiquer, ne devenir intolérant ou allergique à rien, mais finalement, pouvoir vibrer à l'unisson avec tout ce qui est. Et donc, effectivement, pour le deuxième volet, cette question du cœur, on se dit que tout commence au niveau du cœur, j'aurais tendance à dire que tout y finit, parce que de manière très protocolaire, certaines personnes vont essayer d'activer ou d'ouvrir le chakra du cœur, d'être dans cette recherche, mais qui est souvent factice parce qu'on essaie de trouver un résultat, mais sans vouloir ou sans prendre le temps ou sans emprunter le chemin qui génère des prises de conscience au niveau de ce cœur et qui génère vraiment la libération de l'amour que nous sommes. Et je crois que la clé, elle est là, elle est finalement déjà de manière très physique, le chakra du cœur, si on parle dans ce système-là qui nous permet de l'appréhender et qui est certainement qu'une typologie et qui est, mais qu'à sa portée symbolique et de compréhension, eh bien on peut se dire que le chakra du cœur, il est à mi-chemin entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs et que donc du coup, son énergie, elle est la synthèse des énergies terrestres et des énergies célestes. On va le retrouver également dans des pratiques de bioénergie, de Reiki, dans des pratiques chamaniques. Et finalement, ce cœur est placé comme la capacité à synthétiser et à générer une nouvelle énergie, une trinité finalement, à partir de l'alliance parfaite, de l'alchimie, de l'énergie terrestre et de l'énergie céleste. Donc l'énergie du cœur, peut-être qu'elle n'existe pas par elle-même, mais qu'elle est cette union. Pour arriver à cet espace, cela demande donc d'avoir complètement réintégré l'énergie de la Terre et complètement réintégré l'énergie du ciel. Alors, pas seulement les éléments extérieurs, mais aussi ces éléments à l'intérieur de nous, notre animalité, nos instincts, nos pulsions, notre désir d'incarnation, notre conscience primaire et primale, notre conscience ancestrale et tout à la fois les connexions qui sont nôtres, peut-être des origines qu'on peut attribuer à d'autres espaces, à d'autres temps, et finalement permettre à toutes ces données de se rejoindre en un espace qui nous permet d'ouvrir le champ et justement de tout vivre et d'être à l'unisson avec chaque être. Et pour moi, à ce moment-là, on demeure en éveil et effectivement, c'est le cœur qui va prendre le relais, mais le cœur qui n'éradique pas la tête, qui n'éradique pas l'ego, qui n'éradique pas le ventre, le cœur qui coordonne toutes ces autres parts qui se mettent à vibrer à l'unisson et à pouvoir parler d'une seule et même voix. Donc pour moi, l'énergie du cœur, c'est celle-là. Alors que parfois, on a tendance à la mettre dans un curseur qui voudrait qu'elle s'oppose à la vérité d'un autre centre. Et donc du coup, ça donne une lutte intérieure et ça donne des attitudes qui seraient justes et des attitudes qui ne seraient pas justes, certaines qui seraient guidées par le cœur et certaines qui ne le seraient pas. Et je crois que tout ça est passéiste. Et on en a fini, je crois, avec ça. Et il est temps de poser la conscience sur le fait que on peut faire dire tout et n'importe quoi au cœur, mais le cœur, je crois qu'on le ressent quand la personne ouvre plutôt que ce qu'elle ne ferme.
Mmh. Alors, c'est intéressant parce que moi, la première fois qu'on m'a dit ça, de me recentrer dans le cœur, etc., j'avais pas du tout cette perception, je savais pas ce qu'on attendait de moi en fait, parce que déjà j'avais pas conscience de mon corps, et j'avais pas du tout conscience qu'on pouvait s'y situer dans une partie de son corps. Et donc je me disais, mais c'est complètement débile, on me dit d'imaginer un cœur qui s'embrasse ou qui s'enlace autour de nous, mais bon, un cœur peut pas être aussi grand, enfin, j'avais vraiment du mal à visualiser ce qu'on me demandait de faire. Et puis, voilà, et je me dis, pour les gens qui démarrent un petit peu comme ça, c'est vrai qu'on utilise un langage tellement, bon, peut-être un langage spirituel qui va pouvoir être compris de gens qui sont déjà un peu introduit dans la spiritualité, mais pour quelqu'un qui est un petit peu étranger, c'est vrai que ça fait bizarre quoi, de dire bon voilà, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, etc. Et moi je sais que le déclic est un petit peu venu, je crois, un jour où je laissais des images Google sur mon écran et où là je voyais par exemple des images de montagne et je sentais par exemple que mon cœur se fermait parce que j'aime pas la montagne, un exemple, hein, tout con. Et je pouvais voir aussi, par exemple, la mer tout de suite après défiler. Et là, je commençais à ressentir une ouverture du cœur. Et c'est comme ça, je me suis dit, c'est ça qu'on me demandait en fait, c'est de savoir ce que je pouvais vibrer par rapport à des situations et comprendre. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin dans ça ?
Alors déjà, je souscris sur le fait que le jargon spirituel est quelque chose qui peut éloigner. Comme dans n'importe quel corporatisme, on va dire, je suis issu d'une formation juridique, comme je le disais, et on a bien notre jargon. Dans la médecine, ça va être la même chose, et dans tous les corps de métier, on va entretenir effectivement des mots qui vont éloigner le commun des mortels de cela, parce que ça donne un certain mérite et ça donne un peu de valeur, mais effectivement, ça empêche une transmission beaucoup plus démocratique et universelle. Donc c'est effectivement à revoir, je crois, parce que ça vient flatter l'ego, mais ça permet pas à chacun de s'en saisir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois que effectivement, comme vous le soulignez, tout est une question de champ électromagnétique, et donc du coup, il est simplement question d'écouter la vibration, et la vibration, elle va se présenter à nous de manière plus intense ou plus sourde, et c'est simplement cet élan et prendre l'habitude de se resynchroniser à cette donnée. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance aussi, on a été éduqué à se centrer sur l'extérieur et à pas forcément être à l'écoute de ce rythme-là, sauf quand ça arrive à une forme d'extrême. Si on prend le cœur dans la dimension organique, physiologique, il va falloir arriver à la palpitation peut-être pour ressentir à nouveau la pulsation de son cœur sans y faire vraiment soi-même attention. Elle s'impose à nous. Et bien là, c'est la même chose si on se synchronise dans une dimension plus subtile mais qui pourtant est réelle parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Et bien, on va se connecter à une fréquence en termes de hertz. On en parle aussi maintenant pour notre cerveau. Il y a la cohérence cardiaque qui existe. Il y a les sons binauraux qui vont nous permettre d'être en ondes de θ, alpha, gamma, en fonction de l'acuité de conscience qu'on veut acquérir à cet instant. Et pour le cœur, c'est la même chose. Donc de manière très pragmatique, on peut aussi aller faire cette expérience-là, notamment avec la cohérence cardiaque, mais aussi par d'autres biais, sans forcément nourrir un biais particulier. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui est intéressant dans la spiritualité, c'est qu'elle s'ouvre sous bien des formes différentes, y compris dans l'alliance avec la science. Et qui permet à chacun de trouver la modélisation qui lui permet d'accéder à cet espace, parfois de manière très rationnelle et analytique avec un cheminement scientifique, et puis parfois par un aspect de la méditation ou de la sophrologie avec une visualisation, et puis parfois simplement effectivement en étant, comme beaucoup de personnes je crois, dans une spiritualité incarnée qui va passer par être en randonnée dans la montagne ou à la mer, et d'être dans le contact avec le vivant ou avec des animaux, et où à un moment donné on sent que quelque chose se passe dans notre corps, du bien-être qui est là, une capacité à être présent, à être détendu, à être dans l'accueil de ce qui se vit, même lorsque c'est différent de ce qu'on aurait voulu projeter ou imaginer, mais une capacité à faire face à ça avec... oui, avec détente, avec accueil, et sans forcément avoir une idée d'autre chose. Et c'est exactement ça aussi, cette fameuse ouverture du cœur, ce dont il est question. Mais moi, ce sur quoi vraiment je mets le curseur dans mes accompagnements, c'est qu'on voit dans la spiritualité, on voit dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, énormément de personnes qui passe par un mouvement inverse et qui se réclame de l'amour, qui se réclame de l'ouverture du cœur et qui vont envoyer de l'énergie pour la paix, qui vont envoyer de l'amour, mais déjà je crois que l'amour ne s'envoie pas. Et c'est un état qu'on va ressentir à l'intérieur de soi et qui nous reconnecte à ce que nous sommes. Mais au-delà, alors même qu'ils vont vouloir envoyer cet amour, ils vont tomber dans le déni de tous leurs ressentiments, de toutes les émotions qui apparaîtraient, elles, moins positives et qui, donc, du coup, ne seraient pas à vivre. Et au-delà, qui vont devenir intolérantes à tout un tas de situations, de personnes ou de lieux qui seraient moins lumineux, justement. Alors que pour moi, cette sphère du cœur et de l'amour nous permet de tout réintégrer et de le voir dans sa part la plus lumineuse et la plus parfaite, la plus absolue qui soit, au-delà de ce que la personne ou le lieu me présente de lui. Une personne peut être convaincue d'être mauvaise ou de n'avoir aucune valeur, et donc elle va nous présenter ça d'elle. Si je tombe dans le panneau de croire à ce qu'elle me présente d'elle, alors oui, je vais la connecter dans sa part la plus profane, et je vais croire que cette personne, ben... la pauvre, voilà, elle a aucune richesse intérieure. Mais si je dépasse le masque dans lequel elle s'est empêtrée, parce que justement je suis mu par l'espace de mon cœur, alors je vais voir la richesse de l'autre, je vais être touché par l'autre, sans même savoir pourquoi dans le détail, mais tout d'un coup je la vois dans toute sa beauté. Je suis ému, je suis touché, je tombe en amour avec cette personne, au-delà même d'une relation, d'un désir, etc. Vraiment, c'est juste un espace de communion, au-delà de l'humain, et là... je peux refléter à l'autre sa richesse, au-delà de son histoire, au-delà de ses accidents de vie, de ses blessures, de ses croyances, et je lui permets de se reconnecter à sa lumière sans avoir rien à dire, sans avoir rien à faire, sans avoir besoin d'envoyer une énergie quelconque avec ma volonté ou avec mes croyances, simplement parce que j'ai vibré cette réalité. Et cet espace de résonance et plus de raisonnement, à mon sens, fait toute la différence en sortant justement de la théorisation, mais en rentrant vraiment dans l'expérience. Et pour moi, la spiritualité est quelque chose qui se vit, même si encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font, à mon sens, que l'étudier.
Très bien. On va reprendre tout à l'heure. Je vous propose une nouvelle petite pause avec un morceau, cette fois-ci, que j'ai choisi, qui s'intitule « Loving You » de Kate Stewart.
We got so much time, it's you and I. Baby, lose all your inhibitions. This ain't no competition. But boy, you went and feel my hands on you as they move so gently over your tattoos. Turn off the lights, baby. The moment is right. Loving you feels easy. My heart is racing to take care of you, be there to prove you're more than just a rendezvous. I'll always be real with you, you know the deal, baby. Loving you feels
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous sommes toujours en compagnie de Gilles Delieuze. Gilles, vous exercez votre métier avec passion depuis 20 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et ces 20 ans ont été jalonnés quand même par plusieurs étapes dans votre parcours. Il y a eu, et il y a toujours, la médiumnité, la communication avec les maîtres dauphins, le langage galactique. Alors j'aimerais savoir aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui vous inspire pour accompagner les gens ?
Ah, moi, ce qui m'inspire pour accompagner les gens, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Les outils, les modalités peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent se renouveler. Parce que je crois que je suis un ouvreur de voie et que quand je permets à des choses d'arriver, et puis ensuite je les laisse à d'autres et j'ouvre de nouvelles portes. Mais l'inspiration première et la motivation, c'est toujours la même. C'est ce plaisir ineffable et ce bonheur de voir les personnes s'ouvrir, se déposer, se rendre compte que combien elles sont merveilleuses. Et quand je vois une personne qui tombe en amour avec elle-même, une personne qui se dépose, une personne qui se détend et qui arrête de courir après des chimères et qui peut simplement se vivre là, pour moi, c'est un bonheur et ça donne aussi du sens à mon existence. Que chacun se rende compte de sa richesse. Et d'ailleurs, parce que je pense aussi que le monde après tourne rond si chacun se rend compte de sa beauté et se remet au centre de son propre univers. Donc moi, ce qui me motive, c'est aussi cette démarche collective. On parle souvent du nouveau monde. Moi, je crois que le nouveau monde, il est déjà là, que certaines personnes y sont connectées de manière permanente, d'autres de manière intermittente. Mais que ce nouveau monde, cette coopération qu'on peut appeler de nos voeux, ne peut s'ancrer, s'incarner durablement que si chacun s'ouvre à la beauté de ce monde, mais à sa propre beauté. Et donc c'est sortir de tout ce qu'on va se raconter sur le fait que l'homme est un loup pour l'homme, où on va aller se cacher dans la référence au végétal, à l'animal, à la nature, dans laquelle on va pouvoir avoir un aspect de communion plus large ou plus évident, mais où finalement on a un problème avec notre propre humanité. Et pourtant, si on est là, moi je crois à l'âme, si on est là, je crois que c'est que notre âme l'a bien voulu, donc ça sert à rien de le remettre en cause. Et tout ce qu'on va se raconter autour des erreurs de casting, tout le temps et l'énergie qu'on va passer dans notre vie à remettre en cause, y compris les événements qui se sont passés, je crois que c'est plus la peine. Après, on peut passer du temps et de l'énergie à se mettre en paix avec ce qui s'est passé, mais ne plus le remettre en cause. Et c'est un raccourci formidable qui nous donne de l'énergie supplémentaire et qui nous permet aussi de se détacher de l'aspect identitaire. Rien n'a réellement le pouvoir de nous affecter. Et dès lors qu'on s'en souvient, dès lors qu'on se réouvre à nos potentiels aussi, on rentre dans une merveilleuse histoire d'amour avec soi-même et avec la vie. Et c'est ça, ma motivation première, ma motivation principale, et je crois que celle qui restera jusqu'au bout, c'est celle de voir tout d'un coup l'étincelle dans le regard d'une personne et puis son cœur qui s'ouvre, parce que son cœur l'avait toujours été depuis le premier jour, et c'était beaucoup d'énergie qui avait été dépensée à le garder fermé pour le protéger. Mais ça, la véritable nature de chacun, c'est de l'avoir ouvert.
Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des outils que vous utilisez ou qui sont vôtres pour aider les gens ?
Mais je crois que il y a l'outil principal et puis après il y a les habillages, on va dire, qui vont être avec des facteurs favorisants. Mais je crois que l'outil principal, c'est moi, tout simplement. Mmh. C'est ma propre présence et on en parlait en off. Ce à quoi je suis très attentif, et puis quand j'anime aussi des cycles de supervision avec des accompagnants, des thérapeutes, c'est aussi ce à quoi je les amène, c'est de progressivement laisser tomber les techniques, les approches, les compétences, les théories, d'arrêter de se cacher derrière des données, parce que ce qui compte, c'est l'espace de présence, le regard qu'on va pouvoir poser sur soi-même, sur ce présent, sur la personne en face, et puis je crois ne pas croire à son histoire, ne pas croire à son problème, et justement pouvoir la connecter sur les différents plans, sur l'être en face de nous avec lequel on peut être empathique, compassionnel, mais aussi l'être au-delà de qui il croit être, de ce qu'il pense être, ses points forts ou ses faiblesses, et l'accueillir totalement dans un espace non seulement de non-jugement, mais aussi un espace de grâce. Et parce qu'on voit la personne dans son champ ouvert, si on parlait de champ morphogénétique ou de champ quantique, eh bien on va la voir dans tous ses potentiels, y compris ce qu'elle n'incarne pas dans ce moment. eh bien, c'est lui donner la possibilité, parce qu'on le lui reflète, parce que le monde est un immense palais des glaces, donc à ce moment-là, on se fait le miroir de lumière de la personne, et donc elle va pouvoir, au travers de notre regard, comme quand on est et qu'on se conçoit dans le regard de nos parents, eh bien là, dans cet espace, elle va se concevoir dans notre propre regard, et ça va lui permettre de télécharger des programmes honorants qui étaient peut-être déjà disponibles, mais qu'elle n'avait jamais perçus et donc auxquels elle n'avait pas accès. C'est finalement la rebrancher à une sorte de point originel qu'on peut appeler le point zéro, c'est-à-dire le point de conscience et notre note singulière avant toute forme d'expérimentation, de projection, de croyance, de blessure aussi, de mémoire. Et donc retourner à une forme de configuration usine où tous les talents, tous les potentiels et toute notre singularité, notre unicité, mais aussi tout ce qui nous rassemble, est présent et actif à l'intérieur de nous. Donc ça, pour moi, c'est la colonne vertébrale. Mmh. Après, ça passe effectivement par les perceptions qui vont être miennes, mais que finalement, je cultive de moins en moins au gré des années, parce que je crois que finalement, quand on a la foi, on n'a pas forcément besoin de savoir, on n'a pas forcément besoin de cerner, la seule présence suffit, sans avoir besoin de donner des informations aux personnes et sans avoir besoin de se rassurer non plus autour de ça, parce que je crois qu'il y a des leviers un peu pervers derrière ou qui peuvent être toxiques, limitants aussi. Mais il y a donc les outils dont je parlais tout à l'heure avec les nouvelles technologies, les musiques que je compose, les vidéos. Je travaille beaucoup avec l'art vidéo et personnellement, j'aspire à ce que la spiritualité sorte d'un carcan qui serait la spiritualité. Je crois que l'art a toujours servi de médium opératif et de véhicule aux initiations, en alchimie, etc. Mais j'ai beaucoup voyagé, je suis allé rencontrer beaucoup de peuples, de coutumes, j'ai reçu des initiations dans différents pays du monde. Et à chaque fois, c'est au travers de la danse, c'est au travers de la musique, c'est au travers d'un chant que des enseignements m'ont été transmis. Au début, je ne comprenais pas ça. J'attendais une initiation sous une autre forme. J'attendais de la théorie aussi, j'attendais du savoir. Et finalement, j'ai grandi par rapport à ça en comprenant que l'art avait toute sa place et qu'il était ce support alchimique. Et donc, je crois qu'il y a des grands prêtres et des grandes prêtresses partout, et Anthony and Johnson et Anony maintenant, qui est ce chanteur transgenre, en fait partie. Je pourrais citer Woodkid, mais je pourrais en citer tellement qui sont des êtres, mais aussi dans la danse, aussi dans le théâtre, des personnes qui ne se réclament de rien et qui pourtant conjuguent la grâce et la ramènent dans notre vie, l'espace d'un instant, par le beau, par l'inspiration, par le talent et aussi dans la science. Et donc c'est enlever ces étiquettes de spiritualité et la ramener dans tous les espaces de la vie. Et donc c'est pour ça que je vais utiliser aussi des supports créatifs et artistiques, parce que je crois que de tout temps, l'être qui se connecte pour écrire, qui se connecte pour peindre, qui se connecte pour avoir une invention, qui se connecte pour faire de la recherche médicale et scientifique, n'est pas, met ses compétences au service, mais est au service aussi de quelque chose qui le dépasse, et donc fait ce trait d'union entre l'humain et le divin. Et donc tous les outils que je vais utiliser en termes donc de réalité virtuelle, d'art vidéo, de musique, d'énergétique, d'ondes de forme, de champs quantiques, ne sont qu'au service et ne sont là que comme des habillages qui vont coller à une personne ou à une autre, et puis pour m'amuser un peu aussi, parce que je crois que c'est important de rester en joie, mais sont finalement que des facteurs favorisants pour permettre à chacun de trouver la voie qui lui va bien pour arriver à cet espace universel.
Alors la joie justement, c'est quelque chose qui vous va bien, mais aussi c'est l'énergie des dauphins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, avec grand plaisir. Mais les dauphins sont rentrés dans ma vie consciemment, en tout cas en 2007. J'avais pas de projet sur les dauphins. Moi, j'avais pas la couette dauphin, j'avais pas le poster dauphin. C'était pas un animal qui m'appelait spécialement. Et puis un jour j'ai reçu, donc j'étais déjà thérapeute, j'avais déjà des connexions avec d'autres énergies, et puis cette énergie s'est pointée, a pointé le bout de son nez, et j'ai reçu un message télépathique qui me disait il faut que tu ailles nager avec les dauphins, il faut que tu ailles en Nouvelle-Calédonie plus exactement. Je me suis dit, bah, tant qu'à y être, 26 000 km, on y va. Et bon, ça c'était la boutade, et puis finalement c'était tellement persistant, tous les jours, que je me suis dit, bon ok, on y va. J'ai eu l'opportunité en plus d'y aller, donc j'ai pris mes billets, je suis parti là-bas. Et j'ai reçu une initiation très indirecte, parce que je n'ai pas nagé avec eux là-bas. Et juste avant d'y aller, j'ai vécu une initiation et une méditation sur un mont sacré. Et on m'a un peu pressé pour repartir. Et à ce moment-là, j'ai chuté et je me suis brisé le radius gauche contre la racine de cet arbre contre lequel j'avais médité. Et à partir de là, quelque chose s'est passé en moi. J'ai senti que c'était cette énergie qui était à l'œuvre, même si pourtant là, j'étais sur la terre. Et je suis resté encore plus d'un mois sur l'île et j'ai encodé, on va dire, quelque chose qui a mis 2 ans à maturer en fait à l'intérieur de moi. Donc au bout d'un moment, j'avais oublié cette énergie. Et 2 ans jour pour jour après cette fracture du bras, j'ai été réveillé en pleine nuit à 3h33. Et cette même énergie m'a intimé de me lever et d'écrire. Alors ça paraît dingue quand on le dit comme ça, et certainement aujourd'hui, le Gilles qui est en face de vous le décrirait différemment. Ça, c'est l'histoire telle que je l'ai vécue. Aujourd'hui, je dirais que je crois plus par exemple à la canalisation, alors que là, je l'ai canalisé dans ce moment-là. Et donc en 48 heures, j'ai tombé un livre, un jeu de cartes, des enseignements, et j'ai accepté de me mettre au service de ça, et tout à la fois en me disant « c'est dingue » parce que ça venait me chercher sur des réticences, ça venait me chercher aussi sur mon pragmatisme, sur ma peur de la folie aussi. Et puis j'avais l'impression de signer ma mort sociale en me disant « mais je vais plus du tout être crédible là ». Et pour autant, la première conférence, elle a été accueillie, y compris avec des personnes du corps médical, etc., qui disaient « cette énergie, on l'attendait depuis longtemps ». Et moi, ça me paraissait dingue parce que je me disais « c'est tellement perché » et à la fois, ça me faisait tellement de bien. Moi qui croyais être quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste, etc., j'ai basculé dans un niveau de vivance. Le terme n'existe pas, mais il véhicule quand même, je crois, ce que je veux évoquer, que je me suis dit c'est tellement intense tout d'un coup, c'est ça la vraie vie, il faut que tout le monde puisse le toucher, et les dauphins ont cette capacité à nous reconnecter à la joie, au présent, et puis à nous faire vibrer notre aspect cristallin, c'est-à-dire le diamant intérieur. Il nous permet de nous révéler à toute notre beauté, toute notre grandeur, toute notre pureté, et à sortir justement de cette quête. Quand on les contacte sur le plan subtil, mais aussi quand on va, comme j'amène des personnes à leur rencontre dans une approche consciente avec les dauphins sauvages, le seul fait de nager avec eux, de se synchroniser avec leur présence, nous fait vivre des initiations qui valent, à mon sens, bien 20 ans de thérapie.
Ah ouais, quand même. Bon, concernant justement les soins, on en a parlé un petit peu, mais vous proposez plusieurs formules, entre guillemets, de soins d'accompagnement. Voilà, est-ce que vous pouvez nous les décrire?
Il y en a tellement que je ne saurais pas les décrire. C'est vrai que mon site est très touffu.
Il y a beaucoup d'informations, mais bon, il y a quand même, vous faites des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe. Voilà, peut-être distinguer aussi ce qui pourrait intéresser les gens.
Alors effectivement, il y a l'approche individuelle, notamment au travers de séances transparence, qui sont des séances d'une heure, en face-face, souvent en ligne, qui sont enregistrées, qui permettent à la personne de pouvoir y retourner, d'avoir accès à différents niveaux de lecture, parce que parfois on s'accroche à quelque chose qui nous a touché émotionnellement, et puis on laisse passer plein d'autres informations, donc là on peut y retourner, où la personne va pouvoir avoir un espace d'écoute déjà, et où elle va pouvoir déposer ce qui lui apparaît être un problème, ses souffrances, ou ce qu'elle entrevoit comme ses aspirations ou ses marges de progression. Et puis à partir de là, moi, je vais lui faire part de ce que je ressens. On va décoder ensemble en nourrissant le mental, en acceptant de l'intégrer dans la démarche et en donnant du sens à ce qui se vit. Et puis au fur et à mesure qu'on va parler en associant le mental, mais en intégrant aussi en souterrain d'autres parts de soi, sans avoir besoin que la personne s'allonge, etc., des choses vont commencer à bouger, la personne va sentir de manière très organique et physiologique que son corps se réaxe, que des organes se manifestent, que des parties du corps se réchauffent, des fourmillements, etc. Parfois même des choses beaucoup plus intenses que ça, même pour des personnes qui d'habitude n'ont pas l'habitude d'avoir des perceptions ou d'être à l'écoute de leur corps. Et puis dans un deuxième temps, une fois que tout aura fait sens, où la personne a eu ses prises de conscience fulgurantes qui lui disent « Ah mais bon sang, c'est bien sûr, tout fait sens maintenant, tout s'aligne comme un puzzle, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, etc. » À ce moment-là, je lui propose, parce que le mental aussi a été nourri et qu'il ne va plus faire obstruction, de prendre quelques instants, de s'installer confortablement, et à ce moment-là, je vais œuvrer uniquement en énergétique pour faire passer le même message, mais à différents niveaux de l'être, et notamment au niveau atomique, au niveau cellulaire, où je vais à chaque fois aller parler la fréquence de tous les plans pour que tous les plans aient la même information et puissent être synchrones. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une séance transparence individuelle. Effectivement, après, je privilégie beaucoup le collectif parce qu'il y a aussi cette énergie, et ça m'apparaît assez actuel, où là c'est plutôt des transmissions et des soins collectifs qui vont toucher soit des vertus qu'on souhaite acquérir, soit des choses qu'on souhaite laisser, ou alors des fréquences particulières auxquelles on peut se connecter, des fréquences qui sont dans l'univers, dans le cosmos, mais aussi parfois sur la Terre, et avec lesquelles on peut se brancher, se connecter en conscience, et qui vont faire œuvre d'autorégulation à l'intérieur de nous. Moi, j'imagine les choses comme un immense millefeuille, mais aussi comme un réseau, comme une trame. Et parfois, au gré justement de notre historique, on va se débrancher de certaines sources, un peu comme les vieux standards des années 30, ou un peu comme une table de mixage où il y a plein de fils. Certains sont emmêlés, et puis après, on ne sait pas si on peut si c'est branché au bon endroit ou si c'est le branchement optimal. Parfois, il y a aussi de la friture sur l'onde. Et en fait, en allant sur le standard et en branchant sur les bonnes sources qui évoluent, et certaines s'ouvrent aussi qui n'étaient pas accessible l'instant d'avant, en faisant ce travail d'actualisation, bon, j'écris d'ailleurs méditer avec un apostrophe, se mettre à jour, eh bien, en mettant à jour cette configuration, eh bien, on peut d'autant mieux laisser la vie s'autoréguler en nous et donc onduler en harmonie avec le présent. Et donc ces soins collectifs, en prenant des groupes, cette fois-ci sont beaucoup à distance ou en ligne, donc on peut être parfois 500 sur une séance comme on peut être 20 sur une autre, le nombre n'a pas d'importance, c'est les personnes qui se sentiront appelées. Et faire cette démarche, et donc là il y a un envoi d'énergie, et en même temps il y a des vidéos, de la cohérence cardiaque, des supports qui sont donnés, et les personnes pourront y retourner et puis vivre à différents niveaux éternellement. D'ailleurs à chaque c'est téléchargeable à l'infini, donc en fait à chaque fois qu'elles en ressentiront l'appel, elles pourront retourner vivre cette expérience et faire un upload ou un download des informations. Donc c'est ce qui m'apparaît important, parce que du coup les personnes deviennent aussi autonomes, elles ont des outils avec lesquels elles cheminent et elles vont écouter leur propre résonance. Ah ben tiens, à tel moment ça m'appelle, 6 mois après, 3 mois après, 3 semaines après, je ressens l'appel d'y retourner, j'y vais et je m'en saisis. Et donc je fais mon harmonisation toute seule chez moi, à mon rythme, comme je le ressens, parce que ces outils, je les ai ressentis et j'arrive à me reconnecter à eux, sans avoir besoin d'être tout seul à méditer face à un mur, ou de visualiser quelque chose, ou d'avoir une compétence particulière dans la spiritualité, mais de vivre la spiritualité que je suis.
Très bien. Alors, comment on peut faire pour vous contacter, Gilles, quand on est intéressé, voilà, et qu'on souhaiterait avoir un accompagnement de votre part?
Alors, il y a mon site internet, www.gilledelios.com. Et puis, il y a également, comme vous le mentionniez, les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Instagram, sur Facebook également. Il y a ma chaîne également YouTube, où il y a énormément de ressources gratuites. Sur le site aussi, on retrouve des tirages gratuits en ligne, on retrouve des vidéos gratuites, des interviews, énormément de choses qui sont mises à disposition. Il y a des soins gratuits aussi, il y en a quelques-uns que j'ai mis gratuits dans ma newsletter également régulièrement, des bonus. Là il y avait une transmission de 10 minutes de vidéo qui était offerte ce mois-ci, donc voilà, où on peut avoir ces outils. Et puis déjà tout simplement ressentir si l'univers que je propose, dans la manière qui est juste pour moi, résonne. Parce que c'est pas un chemin qui résonne pour chacun, et c'est pas un jugement de valeur. Simplement on a tous les goûts et les couleurs, et puis les formes qui vont le plus nous parler à un moment donné, et parfois c'est pas le moment pour une personne, et puis à un autre moment ça lui parle. Donc c'est déjà venir tâter cet univers et se dire, est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça m'appelle pas. Donc sur Instagram notamment, tous les jours je publie non seulement une pensée, mais tous les jours je publie la transcription après l'après-midi, qui n'est plus en mots mais qui est en forme géométrique, en couleur, en son, et pour faire la même expérience, donc d'un côté par le raisonnement et de l'autre par la résonance. Je fonctionne toujours avec ces deux données, et donc cerveau gauche, cerveau droit, et donc par ces biais là les réseaux sociaux, le site internet, on peut trouver le maximum d'informations. Et puis par ce biais là on peut aussi décider de me joindre au travers d'un message ou d'un mail s'il y a besoin d'informations supplémentaires.
Bon, super. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez une éthique qui vous guide lors de vos accompagnements?
Ah non, moi j'ai aucune éthique. Non, évidemment.
Oui.
Évidemment, et alors elle est peut-être pas la même pour chacun, et je crois que le curseur il est bien intérieur, mais pour moi l'éthique elle est fondamentale, l'intégrité aussi. Ce qui veut pas dire que je ne pêche pas par ailleurs, hein. C'est une aspiration. On fait de son mieux, mais c'est déjà largement suffisant. De faire de son mieux et de se remettre en cause et d'accepter soi-même aussi de s'analyser et d'être accompagné. Ça déjà, c'est une chose qui est importante pour moi, c'est de continuer ad vitam aeternam, en tout cas tout le temps où je continuerai d'accompagner, de me faire accompagner aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir le même regard sur soi, et que c'est important de soi-même se mettre dans la posture de l'accompagné pour pouvoir accompagner. Donc ça fait partie déjà de mon éthique. Ensuite, ce qui m'importe beaucoup, c'est de ne rien retenir des personnes. C'est-à-dire de considérer que la personne, à chaque fois, je la rencontre pour la première fois. Et je ne veux pas la resituer dans un historique. Alors, on pourrait, de prime abord, se dire, il ne se souvient pas, c'est qu'il ne s'est pas investi. Mais c'est tout le contraire. Je fais presque un effort de reset pour laisser la personne être libre d'être nouvelle dans mon regard à chaque fois. Et si elle a fait des bons en avant fulgurant, eh bien je vais la rencontrer. Et d'ailleurs, ça m'arrive de ne pas reconnaître des personnes tout simplement parce que vibratoirement ils ont énormément changé, ils se sont révélés à eux-mêmes, et donc du coup physiquement moi je les reconnais pas parce que je sens leur champ vibratoire en fait. Et donc si j'étais comme dans un accompagnement suivi, je me dirais je l'ai laissé là la dernière fois, et donc je la remets dans cette case et on va continuer d'avancer. Et pour moi ça fait pas sens, ce cheminement linéaire. La personne elle peut se révéler et éclore à elle-même en une fraction de seconde, et de la même manière mon éthique va faire en sorte que je ne refixe jamais un rendez-vous et que je ne suis pas dans une démarche d'accompagnement où je vais dire sur du moyen terme ou sur du long terme, là on en a pour 5 séances, je ne redonne jamais de rendez-vous. Et je crois que la personne est libre de sentir son rythme et de savoir si elle a besoin d'un autre rendez-vous. Mais je pense aussi que potentiellement, en une séance, énormément de choses, même si on ne les a pas évoquées de manière formelle, peuvent être prises en compte par le champ de cohérence qu'on a créé. Donc je laisse la personne dans sa maîtrise à ce niveau-là, et puis j'essaie, autant que faire se peut aussi, de n'asséner aucune vérité et de lui donner le moins d'informations possible de ce qui serait de l'ordre de ce que moi je capte, mais de l'amener à se saisir de sa propre vérité, fût-elle différente de celle que moi j'éprouve. Parce que on n'est pas là tous pour être d'accord, mais on est là par contre pour trouver son espace et sa souveraineté. Et moi ce qui m'importe, c'est pas que les personnes soient d'accord avec moi, qu'elles soient contentes de l'effet pansement et de recevoir cette approbation-là si ça ne change profondément rien à leur vie ensuite, et si ça entretient aussi de la dépendance, revenir et revenir et revenir. Ce qui m'importe, c'est qu'elles se trouvent, même si c'est dans une vérité qui les fait s'éloigner de moi. Mais c'est tant mieux.
Bien. Alors malheureusement, notre entretien va toucher à sa fin. Mais j'aimerais beaucoup, si vous avez un message à exprimer en cette fin d'année 2021, peut-être aussi un message pour l'année qui va commencer.
Avec grand plaisir. Déjà, encore une nouvelle fois, merci pour cette invitation. C'était super et c'est toujours trop court. J'ai vraiment envie de vous dire, j'œuvre beaucoup au changement de regard et je vous invite à avoir un changement de regard tous ensemble et tous les auditeurs sur cette année 2021, sur cette année 2020. Moi, je trouve qu'on a vécu des temps merveilleux. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je crois qu'on a été au rendez-vous avec nous-mêmes et qu'effectivement, comme vous le soulignez en introduction, on a été obligé de se tourner vers nous-mêmes. On a été obligé de revenir à soi et tous les dérivatifs extérieurs qui pouvaient être autant de fuites à soi, même s'ils ont des aspects intéressants, de sortir, d'aller au théâtre, de faire la fête, etc. D'avoir une activité sportive est toujours aussi une manière de faire et de s'éloigner de cet espace qui peut nous faire peur et qui est tantôt notre présence, tantôt notre vie d'intérieur, avec toutes les angoisses de mort, etc., dont on pourrait parler. Et ce retournement de la conscience, mais de la vie aussi quotidienne, nous a amené à ne plus nous contourner. Même si parfois, c'est pas encore fluide à l'intérieur de nous, même si parfois, il y a encore des conflits, je crois que c'est l'occasion, et c'est peut-être pour ça que ça perdure et qu'il y a encore des vagues, c'est qu'on est encore en train parfois de vouloir retourner vers l'extérieur et de ne l'avoir pris que comme une parenthèse. Et je crois que c'est ce nouveau monde dont on parle, ces opportunités qu'on attend, et bien elles se situent peut-être juste là, en sortant de ces illusions, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sortira plus et qu'on ne fera plus des activités, mais qu'on ne les investira plus de la même manière, parce qu'on ne sera plus dans la recherche de quelque chose pour vivre, pour optimiser sa vie ou pour la réussir. On aura complètement ressenti combien nous sommes cette vie et que nous sommes réalisés du seul fait d'être en vie. Et donc le reste, c'est un bonus, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir, mais il n'y a plus d'enjeu dedans. Et je crois que dans cette vie où on cherche à performer sur tout le temps, il faut avoir les super vacances, il faut avoir la super maison, le super mari ou la super épouse, les super enfants qui font les super études, qui font des super hobbies. Et en fait, tout doit être performé, il y a des injonctions partout et la spiritualité, le développement personnel nous en rajoute une couche. Il faudrait être heureux, il faudrait être en paix, il faudrait. Et je crois que cet espace et cette mise en repli nous autorisent déjà à ne pas être toujours bien et à s'accueillir tel que nous sommes avec toutes les émotions qui sont là et à se libérer de ça, à s'affranchir. Et la véritable paix, le véritable accueil, il est peut-être celui d'accueillir toutes les vagues qui sont à l'intérieur de nous. Et je crois que ces deux dernières années nous ont justement offert ces possibilités en nous challengeant pas mal aussi. Je crois que 2022 sera dans cette même tonalité et va peut-être même intensifier cela, mais pas pour nous punir, mais au contraire pour nous permettre de devenir des tout-terrains du bonheur, c'est-à-dire en n'ayant plus besoin que les circonstances soient conformes, mais en nous permettant d'onduler avec la vie et d'être heureux simplement parce que nous l'avons choisi et pas parce que les circonstances nous y poussent ou le favorisent.
Merci, ce sera le mot de la fin. Grand merci à vous, Gilles Delieuze. C'était Énergie Violette, une émission d'Adeline Courson avec à la technique Tiffaine Lemen. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Namasté à vous les amis, prenez soin de vous. Bye bye.